Une heure en France, Denis Farrou, Frédéric Le Ternier.
Bonjour et bienvenue à tous dans Une heure en France. Bonjour Denis Farrou.
Bonjour Frédéric Le Ternier. Un nouveau Tour de France est en vue avant le week-end.
Avec une carte de France à l'encre de Chine d'un étudiant d'Angoulême, tellement appréciée qu'elle est désormais commercialisée. Une dégustation de vin aussi dans une montgolfière pour vérifier comment se comportent nos papilles à 2000 mètres d'altitude. Et puis un réveillon de Noël de la fin du 19e qui commence avant l'heure dans un château de Seine-et-Marne avec près d'un millier de figurants.
On va aussi passer par la Drôme et l'Ardèche où tous les foyers n'ont pas retrouvé l'électricité 9 jours après les chutes de neige et alors que l'Ardèche est à nouveau en vigilance orange. Aux pluies inondations cette fois avec la Lozère, le Gard, l'Hérault et le Var.
Et voici les infos du jour, c'est avec Faustine Moheran.
Bonjour Faustine.
Bonjour à tous.
Des paroles, des cris, des invectives au beau milieu de l'ancienne usine Whirlpool.
Oui, près d'une heure de débat tendu entre le président de la République et les anciens salariés, de nouveau sans emploi aujourd'hui. Emmanuel Macron revenait les voir après la liquidation de WN, le repreneur qu'il leur avait trouvé lui-même pendant sa campagne électorale. Un repreneur fantôme, juste pour gagner des voix, accuse les travailleurs. Le chef de l'État a donc tenté de se défendre et de les rassurer.
J'aurais été au rendez-vous.
Oui, non, mais vous aviez promis des emplois sur le site. Il devait y avoir centaines d'emplois. Il y a 200 personnes qui sont au chômage.
Attendez, je viens au printemps 17.
Ouais.
Il y en a d'autres qui vous disent Whirlpool ne fermera pas avec moi. Est-ce que moi je vous ai tenu ce langage? Non.
Ça a fermé quand même.
Non, mais j'ai dit que ça fermerait. Je vous l'ai dit, les yeux dans les yeux.
Oui.
Vous étiez là,
oui,
vous
oui, avec de l'emploi sur le
et
site.
Et je vous ai dit, l'engagement que je prends, c'est que l'ensemble des salariés de Whirlpool retrouve des perspectives et des emplois. Et on va se battre pour ça. Ouais. Donc je n'ai... Attendez.
On est en 2020.
Le temps passe, on vient.
Je n'ai, mais moi aussi, ne vous inquiétez pas, et le combat n'est pas fini.
Ouais.
Mais donc, le premier point, le premier acte, je viens dans un moment où j'aurais pu vous promettre toutes les salades, je ne le fais pas. Vous pouvez pas me l'enlever. Il y a un repreneur. Le repreneur, c'est pas l'État qui l'invente, c'est pas l'État qui vient le chercher, c'est pas un copain à moi, on ne le connaissait pas. Vous m'auriez dit quoi s'il y avait eu un repreneur et qu'on l'avait pas aidé? Et j'ai aucun regret. Sincèrement, on n'aurait pas fait ce truc-là. Vous nous l'auriez reproché aussi. Dans une reprise, il y a
tout
une part de risque. Si c'était écrit d'avance, on n'en serait pas là.
Emmanuel Macron, à la fin donc, qui a admis quand même un constat d'échec et promet un suivi personnalisé aux ex-Whirlpool. Revivez toute cette séquence politique, comme on dit, très tendue à Amiens, sur francebleu.fr. Enedis devrait faire un geste en faveur des sinistrés. Forte suggestion, limite petit coup de pression du gouvernement au distributeur d'électricité qui a mis une semaine à rebrancher à peu près toutes les maisons privées de courant après les grosses chutes de neige de la fin de semaine dernière. La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye est dans la Drôme ce midi avec les habitants. Les 1000 foyers toujours privés de courant hier soir seront rétablis d'ici ce soir, promet Enedis.
Oui, mais combien de temps faudra-t-il pour remettre le réseau en état? On va voir dans un instant avec la maire de Portes-les-Valences si sa lettre à Emmanuel Macron a été suivie des faits.
Après celle du chauffeur du camion hier, ce sont les obsèques de Lisa aujourd'hui à Bessières, tout près de Mirepoix-sur-Tarn, où l'adolescente est morte dans l'effondrement du pont lundi. Cérémonie dans l'intimité à 15h tout à l'heure. Il y aura en revanche pour le grand public une marche samedi prochain.
Ce pont-là s'était effondré en août 2018, faisant 43 morts.
Le pont de Gênes n'était pas en bon état et les autorités italiennes le savait depuis trois ans avant la catastrophe. C'est ce que révèle un rapport écrit donc en 2015 et publié par le journal italien La Repubblica aujourd'hui. L'ancien garde des Sceaux Michel Mercier, mis en examen en France, l'ex-trésorier du Modem, poursuivi pour complicité de détournement de fonds publics dans l'enquête sur les emplois présumés fictifs des assistants parlementaires des eurodéputés Modem.
Voilà du grain à moudre pour tous les parents qui trouvent que leur enfant ne bouge, passe trop de temps plutôt vautré dans le canapé. Les ados français ne bougent pas assez.
Oui, 4, 11, 17 ans sur 5 font même moins d'une heure d'activité physique par jour. Rien que marcher pour aller au collège ou prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur suffirait. Pourtant, rappelle l'Organisation mondiale de la santé qui publie cette étude. Résultat, la France est bonnet d'âne au classement mondial derrière le Pakistan ou le Kenya. Étude complète à lire là aussi sur notre site internet francebleu.fr.
On va faire un peu de sport. Tiens, plutôt que d'acheter vos cadeaux de Noël sur internet depuis votre bureau, allez donc faire vos emplettes dans les magasins d'à côté.
Oui, réfléchissez bien avant de cliquer, prévient en effet l'ex-secrétaire d'État en charge du numérique. D'après Mounir Majoubi, le géant américain Amazon a détruit 7900 emplois en France l'an dernier. Grosso modo, pour un emploi créé par le site de vente en ligne, le commerce de proximité en aurait perdu deux, affirme Mounir Majoubi.
avant, pour le même produit acheté, il fallait plus de monde pour le préparer, pour le vendre, pour être là pour vous. Mais qui dit plus de monde veut dire plus de gens avec un salaire, un emploi dans les territoires. Quand ça passe par Amazon, ces entrepôts qui sont automatisés, avec une pression psychologique et physique très importante sur les salariés, qui seront bientôt remplacés tous par des robots, c'est-à-dire que c'est même pas de l'emploi durable, eh bien ça, ça coûte moins cher et ça détruit de l'emploi. Cette année, il va y avoir 100 milliards d'euros dépensés en ligne. Quand vous allez dépenser ces 100 milliards d'euros, décidez où ils vont, décidez s'ils vont à l'emploi près de chez vous. Le pire qu'on puisse faire à Noël, c'est offrir des cadeaux made in China achetés sur une entreprise en ligne américaine qui ne paye pas ses impôts en France. Ça, c'est sûr, c'est des cadeaux à zéro impact.
Mounir Majoubi, l'ancien secrétaire d'État en charge du numérique, chez nos collègues de France Info ce matin. C'est un peu le top départ de Noël, justement, puisqu'on parlait des emplettes en Alsace. Aujourd'hui, le marché de Noël de Strasbourg ouvre. Santon, brédélé, autres idées cadeaux gourmandises à vendre dans 300 chalets pour les 5 prochaines semaines, sous très haute surveillance. Cela dit, un an après l'attentat, Chérif Chekat avait tué 5 passants et blessé une dizaine d'autres l'an dernier. C'est avec lui que Lens est devenue championne de France en 1998. Daniel Leclerc est mort, on l'a appris ce matin. Le druide, c'était son surnom, avait 70 ans. Et puis Météo France étend sa vigilance orange, pluie, inondation à l'Hérault. Le département rejoint le Var, le Gard, la Lozère et l'Ardèche qui étaient déjà sous surveillance. Alerte valable jusqu'à 6h demain matin. Prudence donc, puisqu'il va pleuvoir toute la journée sur le pourtour méditerranéen. Sur la façade atlantique aussi, Denis, mais ailleurs, ce sera grand soleil cet après-midi. Profitez-en, malheureusement, le temps va devenir gris progressivement en fin de journée. La pluie tombera même sur le centre de la France d'ici ce soir. Côté température, Denis, il y a du mieux.
9 degrés à Lille, 10 à Dijon, 11 à Rochefort, 12 à Foix et à Lyon, 13 à Angoulême, où nous allons découvrir cette carte de France à l'encre de Chine tout à l'heure. Merci Faustine Moheran.
Bonne émission.
Le prochain rendez-vous, c'est dans la vallée du Rhône.
Francebleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur Francebleu.fr.
France Bleu Paris, info, trafic et mobilité en temps réel.
Attention, si vous voulez sortir de Paris par la porte de Bagnolet, il y a un accident sur l'A3 vers la province. Deux voitures sont impliquées. La voie de gauche est fermée un peu avant l'échangeur avec l'A86. Conséquence, sur le périphérique intérieur, vous roulez avec le pied sur le frein depuis le pont de Bercy, depuis le pont de Bercy. Ça coince aussi sur l'A1 en direction de Paris, à Duny. Deux voitures sont impliquées dans un accident. La bande d'arrêt d'urgence est fermée. Comptez un quart d'heure entre le croisement avec l'A3 à Gare au Nord jusqu'à la 86 à La Courneuve. Enfin, Gilles nous signale un accident sur la Nationale 12 vers Paris à la queue les Yvelines. Une remorque est retournée sur la file de gauche.
L'invité du Nord en France, c'est la maire de Portes-les-Valences dans la Drôme. Bonjour Geneviève Girard.
Bonjour à vous.
On vous a entendu il y a deux jours lancer un cri d'alarme sur France Bleu pour réclamer le retour de l'électricité partout en Drôme-Ardèche, 8 jours après les chutes de neige. Est-ce que ce coup de gueule a été suivi d'effet? Est-ce qu'il a accéléré les choses à votre avis?
Alors, en tous les cas, il a été suivi d'effet sur ma commune, puisqu'aujourd'hui, on peut dire que maintenant, les foyers sont tous rebranchés. Il y a encore malheureusement des communes en Drôme-Ardèche qui sont encore dans l'attente de ces travaux de finition, mais ça avance. Donc je suis intimement convaincue même que ce courrier a eu l'effet, l'électrochoc souhaité, c'est-à-dire qu'il a fait quand même activer un peu le déploiement des forces sur le terrain.
Vous faites allusion à votre lettre à Emmanuel Macron où vous dites « Nous ne pouvons plus assumer les défaillances de l'État ». Vous parlez en l'occurrence du réseau d'électricité qui est parfois vétuste ?
Ah oui, tout à fait. Le courrier n'avait qu'un seul sujet, c'était celui-ci. Je ne voudrais pas non plus qu'il y ait d'amalgame par rapport au reste. Je crois que chaque sujet en son temps. Oui, le réseau électrique, les dégradations liées aux chutes d'arbres et de branches entraînant des pylônes déracinés, des câbles électriques sectionnés, Au regard des 20 cm de neige, je trouve ça quand même assez exceptionnel. Oui, il y a quand même des conditions climatiques antérieures qui ont peut-être joué. La sécheresse cet été, un bois sec, une neige lourde, oui, ont forcément joué sur les conséquences, un entretien plus régulier de l'élagage et peut-être du remplacement de certains pylônes, parce qu'il y en a quand même qui sont peut-être vétustes, aurait pu éviter un moindre mal sur le désastre qu'on a connu.
Oui, parce que si Enedis promet le retour à la normale pour tout le monde, non pas le retour à la normale, mais de l'électricité pour tout le monde, ce sera dans certains secteurs un peu isolés, de manière provisoire. Ce qui vous a agacé...
Ah oui, non, mais même chez nous, hein.
Oui, bien sûr, c'est provisoire, c'est pas du définitif. Et ce qui vous a agacé, Geneviève Girard, c'est que le cas de la Drôme et de l'Ardèche n'a pas été évoqué au congrès des maires avec le président. Vous pensez qu'on n'a pas saisi la gravité de la situation, qu'on ne vous a pas assez prise au sérieux?
Je crois qu'effectivement, en plus que la région de la Drôme a été durement touchée avec le séisme du 11 novembre, oui. 3-4 jours avant quand même. Moi, je ne suis pas allée au congrès des maires, mais des élus de la Drôme s'en sont fait écho, que même pas ces incidents assez importants, exceptionnels, de par leur rareté, un séisme quand même, ça n'arrive pas tous les jours, n'aient même pas été relatés lors du congrès des maires. Donc oui, il y a des élus qui sont là-haut, peut-être trop enfermés dans des bureaux. Nous, on est sur le terrain, on se rend compte de la difficulté, on se rend compte de la détresse de nos administrés. Et c'est le quotidien qu'on doit gérer. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et souvent, on n'a pas la réponse. Parce que c'est très difficile de faire admettre à nos concitoyens qu'un maire, il n'a pas ni toutes les compétences et encore moins ni les moyens financiers et puis d'intervenir sur des sujets qui ne le concernent pas.
Oui.
On est la porte d'entrée, on l'assume, on est ouvert, on écoute. Des fois, on répond, on peut. Mais sur des sujets aussi précis et particuliers que l'électricité, là, on ne pouvait pas répondre. On ne pouvait être que l'intermédiaire, mais encore fallait-il avoir les bonnes réponses.
Mais les habitants comprennent quand même que ce n'est pas vous, le maire, la maire en l'occurrence, qui remet le courant ou qui remplace des poteaux électriques.
Il y en a certains qui, malgré tout, quand ils sont au bord du gouffre, quand ils viennent toquer à la porte pour vous dire « c'est quand que j'ai mon électricité ?», je crois qu'ils perdent la notion de qui doit faire. Ils veulent avoir des réponses. Et c'est ça qui, aujourd'hui, ce cri d'alarme que j'ai poussé, c'est par rapport à ça. Mmh. Parce que dans plein d'autres sujets, on est souvent pris en défaut parce que même si c'est pas de notre compétence, eh bien, on doit savoir répondre. On doit répondre. De toute façon, il faut qu'on réponde, même si on n'a pas les réponses. Et c'est difficile de faire comprendre à nos administrés.
Geneviève...
Donc, on le sait.
Oui. Geneviève Girard, la maire de Porte-les-Valence. On croise les doigts, on espère en tout cas que Enedis va pouvoir remettre le courant à tout le monde, que ce soit de manière provisoire ou pas. Ce soir, c'est ce qui a été annoncé. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et bon courage.
Merci à vous aussi.
Une heure en France, Denis Farou. Frédéric Le Ternier.
Et aujourd'hui, nous allons rencontrer un jeune homme qui a réalisé une magnifique carte de France à l'encre de Chine et qui a eu beaucoup de succès sur Twitter notamment. Aujourd'hui, elle est commercialisée cette carte.
Oui, il y a même une carte collector en rupture de stock. Vous imaginez un peu ?
J'imagine. Ensuite, on a décidé de déguster du vin en altitude en Montgolfière. Et apparemment, ça n'a pas le même goût que sur le plancher des vaches.
Parce qu'on a comparé le même vin en bas avant de décoller et ensuite à 2000 mètres d'altitude dans la Montgolfière.
Et puis, on va terminer avec un grand réveillon au château de Champs-sur-Marne avec pas moins de 1000 bénévoles pour nous faire vivre un moment magique.
Un réveillon de Noël de la fin du 19e siècle dans un château. Vous voyez un peu le décor ?
On voit et on se dit à tout à l'heure. Une heure en France, ça continue. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Un peu de musique pour commencer.
Je rêvais d'une ville étrangère, une ville de filles et de jeux. Il voulait vivre d'autres manières dans un autre milieu. Rêvait sur son chemin de pierre. Je partirai demain si je veux. J'ai la force qu'il faut pour le faire et j'irai trouver mieux. Il voulait trouver mieux que son lopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu. Trouver mieux que la douce lumière du soir près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Sur les murs de poussière. poussière, il voulait trouver mieux. Il a fait tout le tour de la terre, il a même demandé à Dieu. Il a fait tout l'amour de la terre, il n'a pas trouvé mieux. Il a croisé les rois de naguère, tout râpé de diamants et de feu. Mais dans les châteaux des rois de naguère, il n'a pas trouvé mieux. Il n'a pas trouvé mieux que son lopin de terre, que son vieil arbre tordu au milieu. Trouvé mieux que la douce lumière du soir, près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Sur les murs de poussière, il n'a pas trouvé mieux. Il a dit, je retourne en arrière, je n'ai pas trouvé ce que je veux. Il a dit, je retourne en arrière, il s'est brûlé les yeux. Il s'est brûlé les yeux sur son lopin de terre et sur son vieil arbre tordu au milieu. Reflet de la douce lumière du soir, près du feu qui réchauffait son père et la troupe entière de ses aïeux. Au soleil, sur les murs de poussière, il s'est brûlé les yeux. Il s'est brûlé les yeux. Il s'est brûlé les yeux.
Je me rappelle en quelle année est sorti ce titre, vous, non, Frédéric, c'est normal. 77, c'était sur l'album de Petite Marie.
Vous avez une mémoire comme ça, vous vous rappelez chaque titre. Il y a des chansons qui marquent. Un quiz un peu plus tard. Hein. Mais vous avez raison, je n'étais pas née. Francis Cabrel, Les Murs de Poussière, sur France Bleu, c'est bien de dépoussiérer justement, il est 13h17.
Une heure en France, Frédéric Le Ternier, Denis Farroux, sur France Bleu.
Il a 19 ans, il est étudiant en école d'art à Angoulême et à ses moments perdus, eh bien, il a réalisé une carte de France à l'encre de Chine avec pour chaque grande ville un bâtiment iconique.
Il l'a publié sur les réseaux sociaux. Au fur et à mesure de la réalisation, il a obtenu des centaines de milliers de partages. On a encouragé Pablo à poursuivre.
Et oui, aujourd'hui, elle est commercialisée cette carte. Bonjour Pablo Raison, bienvenue dans l'émission.
Bonjour, vous allez bien?
Très bien, et vous, ça va bien?
Très bien, très bien.
Alors, racontez-nous, comment ça vous est venu, cette idée de carte de France?
Alors, tout simplement, j'étais chez moi et j'ai plusieurs cartes qui sont affichées sur le mur de ma chambre. Et j'avais remarqué que je n'avais aucune carte de la France. Mmh. Et j'ai tout d'un coup décidé de créer une carte de la France par moi-même.
Vous avez commencé par la Bretagne et comme vous avez fait partager votre travail et votre sentiment, vous avez quand même marqué à ce moment-là dans quoi je me suis embarqué. Ça vous a fait un peu peur, non?
C'est ça, au début je me suis dit j'aurais peut-être jamais le temps de la finir, jamais je pourrais la finir. Et quand j'ai vu tous les encouragements des gens avec le début de cette carte, je me suis dit bon bah faut que je me motive, il faut que je finisse cette carte.
Résultat, vous avez mis combien de temps pour la faire, Pablo?
En tout, j'ai mis une semaine.
Oh, c'est tout. Ça va.
Mais à faire que ça, vous voulez dire jour et nuit, vous étiez sur la
carte? Ah non, c'était une semaine, par exemple, un petit peu le soir, un petit peu le matin, dans la journée,
c'est
quand
cool.
J'avais le temps.
Mais comment vous avez effectué vos recherches? Parce qu'il y a un monument par grande ville, mais il y a aussi des monuments emblématiques dans les petits villages. Pour certains, vous faisiez des recherches?
Alors c'est ça, c'est en fait à chaque fois j'arrivais sur une ville, donc je notais la ville et puis je faisais des recherches sur Google sur des monuments qui pouvaient être intéressants de représenter dans cette ville. À plusieurs reprises, j'avais des cathédrales, mais j'essayais d'alterner un petit peu entre des châteaux, peut-être des constructions un peu plus extravagantes, plus originales.
Comme quoi par exemple, vous avez un exemple de...
Ah bah par exemple, je le dis tout le temps, c'est à dans une ville, un village qui s'appelle Civaux.
Oui.
Il y a une centrale nucléaire.
Oui.
Donc j'ai dessiné tout bonnement la centrale nucléaire de Civaux.
Et à Millau, il y a un pont.
Ah oui, ça, bah oui, il y a le pont de Millau qui apparaît sur la carte en effet.
Alors on va vérifier deux ou trois petites choses avec vous parce qu'on n'est pas sûr. Est-ce que c'est vrai que vous avez failli faire une grosse tache à l'encre de Chine sur la carte?
Oui, ça c'est vrai.
Comment ça s'est passé? Ça, c'est votre stylo qui
fuit. J'étais en train de dessiner et puis à un moment je prends ma plume, je mets beaucoup d'encre sur ma plume, et je fais un geste brusque, et là je vois une grosse tache d'encre, mais qui apparaît, elle est juste à côté de mon dessin, j'ai eu très peur sur le coup.
Mais elle est tombée où alors?
Cette bah, elle est tombée sur mon bureau. Bon, ah, mon bon. Bureau, il est un peu sale, mais bon, c'est pas grave. c'est le dessin qui importe.
Et le département le plus difficile que vous ayez eu à dessiner sur cette carte de France, c'est lequel?
Alors, c'est pas un département, c'est plus une région, c'était l'île de France.
Ah bon? Parce qu'il y avait beaucoup de monuments?
Ah bah, c'est surtout parce que l'île de France, c'est quand même une région assez petite qui rassemble plusieurs millions de personnes. Donc forcément, il y a beaucoup de communes, il y a plein de choses, il y a plein de monuments intéressants. Alors, j'ai essayé de représenter l'île de France avec sa démographie, c'est-à-dire avec... plein de villes serrées entre elles et plein de choses à voir différentes.
Et c'est d'ailleurs la dernière région que vous avez réalisée à l'encre de Chine, l'Île-de-France.
C'est ça.
J'ai encore une petite vérification. C'est vrai que vous avez failli confondre Toulouse et Montpellier?
Ah oui, ça c'est vrai. Je ne l'ai pas trop dit parce que je ne voulais pas trop que ça se tâche, mais bon...
Non, on le dit pas
faites
fort
confiance
non plus.
À Denis pour ça, ouais.
On ne le dit pas fort non plus.
Non, mais oui, c'est vrai que du coup, comme je vous ai dit que je faisais ça un peu le soir, des fois j'étais un peu fatigué, et puis en plus je m'en souviens, ça m'a fait rire sur le coup, j'ai confondu les deux villes, j'ai rigolé d'un rire nerveux, j'ai donné des indices aux gens en disant que j'avais mis un peu de blanco sur Toulouse et... certains ont trouvé pourquoi, mais d'autres, ils s'interrogent toujours.
Et du coup, les internautes, justement, ils sont passionnés pour votre carte. Est-ce qu'ils vous ont donné des idées? Est-ce que vous avez beaucoup échangé avec les gens qui vous suivaient sur les réseaux?
Pas mal, hein. C'est ça qui est bien avec les réseaux sociaux. C'est que, justement, quand je voulais faire l'Île-de-France, forcément, en Île-de-France, on connaît que, on va dire, enfin, beaucoup de gens diront, ouais, la Tour Eiffel, Paris, etc. Mais moi, je voulais représenter d'autres choses, donc c'est pour ça que j'ai envoyé des messages aux gens pour savoir s'ils pouvaient me donner des monuments intéressants que je pourrais représenter. Et donc, beaucoup m'ont donné des idées, c'était très intéressant. Du coup, ça m'a permis de découvrir en même temps des monuments que je ne connaissais pas.
Alors, nous, on a dit qu'elle était magnifique, et c'est vrai, ouais. Cette carte de France réalisée à l'encre de Chine, tellement belle que vous la commercialisez maintenant, Pablo.
C'est ça. J'ai eu un contact avec une entreprise... qui s'occupe de vendre des cartes décoratives et du coup maintenant elles sont disponibles à la vente en ligne.
Mais alors vous êtes passionné d'histoire, de géo, de dessin, parce que d'ailleurs je sais que vous avez été récompensé au Festival d'Angoulême pour certaines planches, donc vous êtes un passionné de BD, un peu d'étroit, c'est ça?
C'est ça, j'essaie d'alterner en même temps un peu l'histoire, la géographie, la bande dessinée, le dessin, l'art. C'est quelque chose que je trouve très intéressant, que je développe depuis que je suis au lycée. Alors là, quand j'ai fait cette carte-là, ça m'a beaucoup amusé parce que du coup, j'ai un peu lié, on va dire, l'histoire, la géographie et le dessin sur un même support.
Et vous voulez faire quoi plus tard? Vous voyez dans quoi, du coup, Pablo?
Faire la carte du monde.
Ah, bah, pourquoi pas. Non, mais en vrai, je m'intéresse beaucoup à la bande dessinée et puis j'aimerais, pourquoi pas, un jour sortir une BD dont j'aurais fait le scénario et puis faire les dessins de cette bande dessinée. Et puis après, pourquoi pas, on va dire, développer mon travail sur les cartes.
C'est le meilleur qu'on puisse vous souhaiter. Et merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous répondre à nos questions. Et votre carte est absolument magnifique. On l'a mise sur francebleu.fr. Bravo vraiment pour le projet, merci. Pablo. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. C'est très gentil à vous. Merci.
Bonne journée. Au revoir, Pablo. Au revoir. Et nous jouons pour un support de téléphone portable France Bleu. Dites-nous par quelle région Pablo a commencé sa carte. Vous l'avez dit tout à l'heure, Denis, je ne fais pas de proposition.
C'est pas Auvergne-Rhône-Alpes.
Et non, vous nous appelez au 0810 055 056. Et puis vous restez avec nous. On va déguster du vin en altitude, en montgolfière. Et puis à 13h45, on va fêter un petit peu en avance le réveillon en Seine-et-Marne. Ça, ce sera dans un château. Mais on continue avec une nouveauté sur France Bleu, un duo. Ce sera James Blunt. Et Léa Passy qui revient, qui fait un grand retour, ça s'appelle Cold. It's been lonely trying to get your attention from 1,000 miles away. And you know me, always overthinking the worst possibilities. Et tu le sais, je suis seule, égarée à nous chercher. L'océan nous arrache, peur de se souffler. Fais-moi signe, je suis là et je n'attends plus que toi. Without your arms around me, without you on my skin, without you on my body, I'm sorry, I'm sorry.
tempête s'efface, change de cap, reviens vers moi. Yeah, we both know. In between you and me, there's an ocean. And I'm just trying to get a little closer. Pull me in, cause I'm ill, and all I need is a little warmth. Et si tu cherches le rivage, reste ton point d'ancrage. Il n'y aura plus de naufrage. Entends-moi, entends-moi. I don't mean to be desperate or pretend that I'm not tall.
Deux voix pour une nouvelle version de ce titre, Cold, c'est James Blunt et Léa Passy qui sont en duo. Donc c'est très jolie collaboration pour la version française du titre. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Bonjour Claude, bienvenue. Allô Claude, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour.
Vous nous entendez bien Claude?
Très bien.
Bon, où êtes-vous?
Je suis à Biarritz.
Ah, vous en avez de la chance. Le Pays Basque.
Je vous ai même rencontré il y a 2 ou 3 ans. Au cours du championnat du monde de surf.
Mais oui, nous étions venus avec Denis, effectivement.
On était carrément installés sur la plage. Hein.
Je vous ai même fait une photo que je vous ai envoyée.
Ah oui. Ben non, l'a reçue.
Mais c'est vous, Claude. D'accord.
Oui, c'est moi.
Vous l'avez eu, Denis, la photo.
Oui, on l'a reçue, la photo, bien sûr.
Très bien. Et vous surfez, vous, Claude?
Bien sûr.
C'est vrai? Vous surfez bien souvent sûr. Ça fait rire, Claude.
Bon. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai.
Ah, c'est pour ça que ça vous faisait sourire.
Par contre, je fais partie des ours blancs de Biarritz.
Donc ça veut dire que vous allez... Ouais, j'allais le dire le 1er janvier, c'est ça?
Oh, mais presque tous les jours.
Presque toujours, mais le 1er janvier compris aussi.
Oui, absolument.
Claude, on joue pour le support de téléphone portable France Bleu. Dites-nous, par quelle région Pablo a commencé sa superbe carte de France?
C'est la Bretagne.
Oui, félicitations, vous l'avez bien écoutée. Elle est magnifique. C'est bien son projet de carte de France, non?
Absolument. Je vais regarder sur Internet.
Oui. Ah, mais foncez alors. On vous envoie le support de téléphone portable France Bleu. Et merci de ce petit coucou. Ça nous a fait bien plaisir, Claude.
C'est gentil à vous.
Et on refera un selfie quand on retournera à Biarritz avec Frédéric.
Peut-être pour d'autres championnats du monde de surf. Mais allez savoir.
J'espère.
À bientôt, Claude.
Merci
bonne
beaucoup.
Journée.
Merci
au revoir. Au revoir.
France Bleu. France Bleu présente La Nuit de la Bretagne, le 7 mars 2020 à Paris La Défense Arena. Chant, musique et danse, 150 artistes réunis sur scène pour un show exceptionnel dans la plus grande salle d'Europe. Avec le Baguette de l'Anne-Biwe, Denez, Dan Arbraz, Alan Stivell, Gilles Servat, l'Orchestre Symphonique de Bretagne et bien d'autres surprises. Proposé par le Télégramme, La Nuit de la Bretagne, le 7 mars 2020 à Paris La Défense Arena. Un événement France Bleu avec France 3. Toutes les infos sur francebleu.fr.
francebleu.fr.
À écouter, à réécouter, à voir et à revoir, à lire et à relire. Tout France Bleu est sur francebleu.fr.
France Bleu Paris, info trafic et mobilité en temps réel.
Le trafic est fluide sur les routes, mais attention si vous voulez sortir de Paris par la porte de Bagnolet, il y a un accident sur l'A3 vers la province. Il est maintenant dégagé, mais l'autoroute reste chargée à partir du périphérique. Ça coince aussi sur l'A1 en direction de Paris. À Duny, il y a eu également un accident avec deux voitures. Là aussi, c'est terminé, mais il y a encore des ralentissements. Et puis prudence sur l'A13 vers la province, il y a un camion en panne sur la voie de droite à Boulogne-Billancourt. Enfin, Gilles nous signale un accident sur la Nationale 12 vers Paris, à la queue les Yvelines. Une remorque est retournée sur la file de gauche. Merci à lui pour l'info.
Sur France Bleu, un petit peu plus près des étoiles. Bah oui, on s'en rapproche, c'est bientôt le week-end.
Une heure en France, Denis Farrow, Frédéric Le Ternier sur France Bleu.
Et oui, pour se rapprocher des étoiles, voilà la montgolfière. Et une drôle de question qui a attiré notre attention. Les vins dégustés au sol ont-ils le même goût une fois regoutés à 2000 mètres d'altitude à bord donc d'une montgolfière?
Vous êtes en train de nous dire que l'expérience a donc été tentée.
Mais oui, dans les Hautes-Alpes, à l'initiative d'un caviste de Malakoff dans les Hauts-de-Seine, le propriétaire de cette cave où l'on peut aussi manger est baptisé vin d'auteur.
Et alors, ça change quelque chose, le vin dégusté en altitude?
Ah ben, on va lui demander, il est là.
Ah oui.
Bonjour François Briclot.
Bonjour.
Alors, vous avez goûté le vin sur la terre ferme avant de décoller pour pouvoir faire la différence, évidemment.
Absolument. Alors, il faut d'abord que je vous parle peut-être de l'acteur principal qui est le vigneron. Le vigneron s'appelle Philippe Cassonnet et sa compagne, c'est Anne-Sophie Leplat. Ce sont des vins qui sont des vins de gastronomie qu'on retrouve sur les grandes tables, et ce sont des vins quand même riches, complexes, avec quand même beaucoup de matière. Alors, nous les avons dégustés au sol, puis nous sommes montés en altitude jusqu'à plus de 2000 mètres.
François Bricot, pour qu'on comprenne bien, oui, il s'agit de vins rouges, hein?
Il s'agit de vins rouges et de vins blancs. Il y avait trois rouges et trois blancs.
D'accord.
Voilà. Alors effectivement, les repères sont un peu faussés.
Ah.
Pourquoi? Parce que la pression atmosphérique n'est plus la même, elle est plus basse, l'oxygène se raréfie, nos muqueuses sont plus sèches, ce qui change un peu la texture du vin. Voilà.
J'ai entendu quelques commentaires parmi ceux qui étaient dans la montgolfière, et vous en faites partie, François Bricot. Le vin remplit plus la bouche, il a plus d'intensité, et puis il y a une journaliste qui a dit « on est un peu perdu quand même parfois ».
Alors non seulement nous sommes un peu perdus, parce que même le vigneron ne reconnaissait pas bien ses vins.
Ah oui,
c'est quand même vous dire, parce que les parfums semblent un petit peu démultipliés. Une notion que nous ne trouvions pas au sol, c'est la salinité.
Ah oui.
Voilà. Alors c'est ce qui fait que ça donne un peu plus de minéralité. Et que toutes les formes, les rythmes, le style, etc., se trouvent un petit peu modifiés.
Alors du coup, est-ce que c'est pareil en avion ou ça n'a rien à voir? Parce que parfois on dit que c'est vrai, quand on prend l'avion, si on prend un verre de vin, ça va, l'ivresse va venir plus vite et puis il aura pas forcément le même goût. C'est comparable?
Alors ça, je n'ai pas fait cette expérience, mais je sais. Que dans les compagnies aériennes, ils font attention à choisir les vins qui pourraient bien coller en altitude.
On
me l'a dit, ça.
Ouais. On se disait aussi avec Frédéric que l'environnement doit jouer quand même. Hein. Si on boit un vin dans de mauvaises conditions, dans un bar surchauffé ou chez des amis qui ne sont pas des amis, il va être moins bon qu'à 2000 mètres d'altitude dans une montgolfière quand même.
Alors évidemment, il ne faut pas oublier quand même que il y a la partie émotionnelle. On s'est quand même levé à 4 heures du matin. On s'est retrouvé dans un champ à 4h30 à gonfler une énorme voilure. Il faisait un temps magnifique. Ouais. On était donc dans les Hautes-Alpes, et il ne faut pas oublier donc la magnificence de cette aventure. Ça peut modifier nos émotions, ça peut influencer.
C'était votre premier tour en montgolfière, François Bricot?
Alors, c'était pas mon premier tour en montgolfière, mais c'était la première fois que j'allais déguster en altitude. Oui,
vous exactement. Aviez pris des petits trucs apéritifs pour grignoter ou pas?
Non, c'était
au petit déjeuner. Voilà, la dégustation de vin en montgolfière, les perceptions différentes avec François Bricot de la cave Vin d'auteur à Malakoff.
Merci beaucoup de nous avoir raconté l'expérience dans une heure en France aujourd'hui.
Écoutez, avec grand plaisir.
À bientôt, bonne journée.
Oui, au revoir.
Au revoir. Et nous jouons pour une montre France Bleu Sport. Ça donne envie de faire un tour en montgolfière, mais avec de bonnes bouteilles dans la nacelle.
Alors, les vols en montgolfière avec modération quand même.
Oui, vous avez raison, il ne faut pas abuser des vols en montgolfière. Alors, la montre France Bleu, vous êtes très en forme aujourd'hui. La montre France Bleu Sport, dites-nous qui a écrit, ça s'y prête, 5 semaines en ballon. Pas de proposition, n'y voyez pas le ballon de rouge, hein, je parle de la montgolfière toujours. Qui a écrit 5... D'ailleurs, c'est la sortie du Beaujolais Nouveau, c'est hier.
Elle est très en forme en ce moment, Frédéric.
Qui a écrit 5 semaines en ballon? La bonne réponse, 0810 055 056. Puis on est ravis de vous présenter cette nouveauté qui n'en est pas une, je vous explique tout ça après. C'est une de vos chanteuses préférées de Nice, c'est Angèle, la Belge. Et ça s'appelle Oui ou Non, sur France Bleu.
Ma journée est passée à une de ces vitesses. Quoi? Pas mis le nez dehors et pas lavé. Ah, ça je déteste. Batterie faible, j'ai pas de quoi recharger. Et ça n'arrive que moi. Je voulais faire des stories qui t'étaient dédiées. Je sais pas te dire pourquoi. Regarde comment je souris. Regarde encore. Je veux savoir ce que celle de tes rêves, celle qui comble tes nuits et la mariée. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré qu'une seule soirée. Genre romantisme express, t'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses puis tu me laisses. Regarde comment je souris, regarde encore. Je veux savoir ce que t'en dis. Quand je souris trop fort, c'est faux peut-être, mais au plus je ris, au plus je te donne tort de pas vouloir m'aimer. C'est oui ou bien c'est non. Hier tu me voulais, c'est oui ou bien c'est non. Demain tu me feras marcher, c'est oui ou bien c'est non. Je vais devoir t'oublier, c'est oui ou bien c'est non. Pourquoi tes j'aime comptent plus que ceux des autres? Pourquoi même quand ils m'aiment, je te veux toi jusqu'à l'aube? Pourquoi je me mens à moi-même en croyant ce que tu me racontes? Quand tu m'écris que je suis belle et finalement c'est des mensonges.
Alors, c'est une nouveauté, oui ou non?
Oui et non. C'est Angèle, bien sûr, vous l'avez reconnu, mais quand je dis oui et non, c'est parce que, en fait, cette chanteuse belge, Angèle, est de retour, donc avec une réédition de son premier projet. Après la sortie de Brawl, elle a ressorti des tiroirs, si vous voulez, son premier projet, qui a été réenregistré.
Vous savez qu'on comprend absolument rien.
Mais si, c'était un premier projet, voilà, qui a été édité, et depuis le succès de Brawl et ce fameux album, eh ben, on l'a réédité.
D'accord. C'est une nouveauté, oui ou non?
Oh, vous êtes pénible. Bon, écoutez, ce que vous voulez. Jean-Pierre, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes où, Jean-Pierre?
Ben, je suis à Bray-Dunes, tout à fait au nord de la France.
Dans les Hauts-de-France?
Dans les Hauts-de-France, la plage la plus septentrionale de, de France.
Excellent, Jean-Pierre. Plus au nord de, en France possible, pas mal. Est-ce que j'ai été clair, moi, avec Angèle? Vous avez compris ce que j'ai dit, Jean-Pierre?
Oui, j'ai compris que c'était une réédition.
Ah bah voilà.
Vous aimez bien.
Oui, mais vous êtes tout proche de la Belgique, donc vous avez compris.
Ah, c'est pour
ça. Juste voilà. À côté de la panne.
Ah voilà, et puis ben, Angèle est belge, donc effectivement. Vous aimez Angèle aussi, Jean-Pierre?
Oui.
Bon, de toute façon, c'est pas pour ça que vous jouez, c'est pour une montre France Bleu Sport, donc pas de problème. Dites-nous, qui a écrit 5 semaines en ballon?
Ben, Jules Verne.
Mais oui, Jules Verne, c'est la bonne réponse. Vous avez déjà fait, vous, un vol en montgolfière?
Non, jamais.
Moi non plus.
Moi non plus.
Bah oui, bah écoutez.
Des dégustations.
Oui. Mais des vols en montgolfière, pas
non.
Encore. Jean-Pierre, on vous envoie la montre France Bleu Sport. On vous souhaite quoi pour ce week-end qui s'annonce?
Bah écoutez, du beau temps.
Oui. Bon, on peut toujours essayer. Je suis pas sûre que ça se produise, Jean-Pierre. Bah,
pour l'instant, ça va. Chez nous, c'est pas trop mal.
C'est du beau.
Il pleut pas, donc c'est bien.
Un peu de froid, mais du beau. Bon, mais profitez-en. Et puis pour ce week-end, on verra ce qu'on peut faire, d'accord?
D'accord.
On vous fait une grosse bise, Jean-Pierre. Merci d'avoir joué avec nous.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Bonne journée.
Bonne journée. Au revoir. On continue. Oh là là, avec un super titre. Ça, c'est vrai que ça sonne vendredi. Hein. Les Bee Gees, Stayin' Alive. C'est sur France Bleu. Allez-y, vous pouvez lancer la choré, Denis. Stayin' Alive sur France Bleu. We'll be right back. Les Bee Gees, Stayin' Alive, mais bien sûr qu'on est encore vivant avec vous jusqu'à 14h sur France Bleu et on va même faire un peu la fête.
Une heure en France, Frédéric Le Tournier, Denis Farou sur France Bleu.
Parce qu'au château de Champs-sur-Marne, c'est déjà Noël en Seine-et-Marne avec le Grand Réveillon. C'est un spectacle pour 4 week-ends à partir de ce soir.
C'est l'histoire d'une veille de Noël au château à la fin du 19e. Une super production avec près d'un millier de participants, on se croirait dans un film. D'ailleurs, il y a une bande-annonce, comme pour un film.
Ce soir-là n'était pas un soir comme tous les autres. C'était la veille de Noël au château de Champs. La nuit, mystérieuse entre toutes, au soir d'un siècle passé et à l'aube d'un nouveau.
Le Centre des Monuments Nationaux et la société de production Polaris, qui valorise le patrimoine, sont à l'origine du Grand Réveillon. C'est la directrice générale de Polaris qui est avec nous. Bonjour Julie Gélugne.
Oui, bonjour madame.
Nous sommes plongés au cœur du premier réveillon de la famille Cahun d'Anvers sur le domaine de Champs-sur-Marne à la fin du 19e. Et d'abord, qui sont ces Cahun d'Anvers?
Alors, les Cahun d'Anvers, c'est ceux dont on raconte l'histoire à partir de ce soir, dans quelques heures. C'est la grande famille qui était propriétaire au début du siècle dernier du château de Champs-sur-Marne, une famille de riches banquiers, très importante dans son temps, et dont on raconte la vie quotidienne. Alors, la vie quotidienne, une veille de Noël, donc pour une occasion un peu particulière, et toute la vie d'un château qui s'anime avec le personnel, les invités, et puis la famille qui se prépare à fêter ce grand réveillon.
Combien de personnes, de participants pour ce spectacle?
Nous sommes 930 volontaires bénévoles. Alors, il y a de tous les âges, il y a de 5 ans à 86 ans. Et tous les corps de métier, il y a des électriciens, des acteurs, des perruquiers, des costumières. Et tout ce petit monde s'anime pour faire vivre le château de Champs-sur-Marne pendant 4 week-ends pour Noël.
Donc là, ils ne sont pas encore sur place, on imagine qu'ils arrivent demain. Ils sont comment à quelques heures du show?
Ce soir.
Ah ben si, ils sont peut-être sur place.
Alors, très impatients, ceux qui commencent ce soir sont extrêmement impatients.
Oui.
Cette grande communauté de volontaires, en fait, répète depuis le mois de septembre, à raison de répétitions hebdomadaires pour préparer leur rôle, que ce soit sur scène ou en coulisses. Et donc, ils sont très impatients de pouvoir incarner ces personnages et emmener le public dans un autre siècle, dans la magie de Noël, pendant ce spectacle d'une heure.
Alors c'est une reconstitution en quelque sorte, avec des habits d'époque, avec les habitudes, les repas, il s'agit de ne pas se tromper, on est à la fin du 19e.
Oui, tout à fait. Ce qu'on essaye de faire avec le Centre des Monuments Nationaux, c'est vraiment de redonner aux monuments une partie de leur vie dans une époque. Alors, ce qui est très pratique, c'est que dans un château, on peut regarder à droite, à gauche et se croire à une époque ou à une autre. Ici, ce qu'on essaye de faire, c'est de renforcer un peu ce côté en remettant du décor, en habillant les gens très proprement, de manière à ce que pendant une heure, on ne sache plus vraiment si on est en 2019 ou en 1901.
Mais est-ce qu'on va déambuler dans le château ou est-ce qu'on est assis face à un spectacle traditionnel?
Alors non, c'est un spectacle qui bouge. Les départs se font toutes les 10 minutes de 9h à minuit le samedi et le dimanche et le vendredi soir. Et en fait, ce petit groupe de spectateurs qui va rentrer dans le château va déambuler dans le château et découvrir à chaque fois qu'il va ouvrir une porte, une nouvelle scène qui va lui conter le fil de l'histoire de la veille de Noël des Cahun d'Anvers. Donc c'est un spectacle où on découvre le château, mais sous un certain angle parce qu'il est entièrement redécoré et puis habité par près de 200 personnes que vous allez croiser pendant cette heure de spectacle pour l'occasion.
Julie Gélugne, ça vous parle si je vous dis théâtre immersif? Est-ce qu'on peut comparer ça à du théâtre immersif?
Oui, c'est complètement du théâtre immersif parce que le principe de ce qu'on fait, c'est vraiment de plonger les gens dans quelque chose d'inhabituel et pour ça, il faut que tout soit immersif, c'est-à-dire que le moindre détail de décor, de costume, de parler, doit être raccord avec l'époque dans laquelle on veut plonger ses spectateurs pour que ça marche, en fait, pour qu'on s'y croit vraiment. Donc on est très attentif à l'immersion et c'est vraiment ce qu'on veut faire.
On peut quand même rappeler qu'il y a d'illustres locataires qui sont passés par ce château. Alors je me rappelle par exemple de la marquise de Pompadour.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on l'évoque pendant le spectacle, puisque Monsieur Cahun d'Anvers, donc on est au début du XXe siècle, compte cette histoire du château de Champs et passe par cette époque où la marquise de Pompadour y résidait. Et donc, on va passer par une scène va nous plonger en plein 18e siècle avec les Lumières. On voit la marquise de Pompadour discutant avec Diderot sur le gouvernement des peuples.
Ah oui.
Et puis on passe aussi sur l'époque de la Révolution où la propriétaire d'alors, la veuve Marbeuf, s'est vue malheureusement guillotinée. Donc on a une scène un peu impressionnante avec des révolutionnaires et une guillotine pour évoquer cette époque révolutionnaire.
Et puis il y a la magie de Noël également. Ça commence bien ce soir.
Une soirée en haute forme, grande robe de la fin du 19e au grand réveillon au château de Champs-sur-Marne à l'ouest de Paris.
Julie Gélung, vous ferez partie de la troupe ou vous allez regarder ça tranquillement?
Tranquillement, peut-être pas. Mais en tout cas, je serai là pour veiller à tout se passe bien et que la magie opère.
J'ai dit que c'était à l'ouest. C'est à l'est de Paris, évidemment.
On vous souhaite, on vous dit le mot de cinq lettres sans vous le dire pour ce soir. Et merci de nous en avoir parlé dans Une Heure en France, Julie Gélung.
Un grand merci, au revoir.
À bientôt, au revoir. Une Heure en France, ça continue. C'est Renan Luce, vous la reconnaissez cette musique. Il a une missive à nous faire parvenir, figurez-vous Denis.
La lettre.
La lettre, c'est maintenant, c'est sur France Bleu.
J'ai reçu une lettre, il y a un mois peut-être. Arrivé par erreur, maladresse de facteur, aspergé de parfum, rouge à lèvres carmin. J'aurais dû cette lettre ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. Veux bien qu'elle me nomme Alphonse ou Fred, c'est comme elle veut. C'est comme elle veut. Des jolies marguerites sur le haut de ses i. Des courbes manuscrites, comme dans les API. Quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie. Et en guise de paraphe, ta petite blonde sexy. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. N'aime pas les nonnes, et j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Elle écrit que dimanche, elle sera sur la falaise. Où je l'ai prise par les hanches, et que dans l'hypothèse où je n'aurais pas le tact d'assumer mes ébats, elle choisira l'impact 30 mètres plus bas. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je ne veux pas qu'elle s'assomme, car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Et grâce au cachet de la poste d'une ville sur la Manche, j'étais à l'avant-poste au matin du dimanche. L'endroit était désert, il faudra être patient. Des blondes suicidaires, il n'y en a pas sans. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Veux pas être Newton, car j'en suis tombé amoureux. Amoureux. Elle surplombait la Manche. Quand je l'ai reconnue, j'ai saisi par la manche ma petite ingénue qui ne l'était pas tant au regard du profil qu'un petit habitant lui faisait sous le nombril. Et moi je suis un homme qui aime bien ce genre d'enjeu. Je veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut. S'il le veut. Et moi je suis un homme. J'aime bien ce genre d'enjeu, veux bien qu'il me nomme papa s'il le veut.
La lettre, Renan Luce sur France Bleu pour terminer cette heure passée ensemble en France. Aujourd'hui, Denis, on a commencé avec une très belle rencontre. On a rencontré Pablo.
Oh, qu'est-ce qu'il est sympa, Pablo.
Très, très, très.
19 ans, étudiant en art à Angoulême. Il a réalisé cette magnifique carte de France à l'encre de Chine. Et alors, Frédéric lui a dit, vous avez passé combien d'années, combien de mois?
Jour et nuit.
Voilà. Ben non, pas du tout. J'ai fait ça en une semaine. Bah, à temps perdu, le soir.
Il est très doué. Aujourd'hui, elle est commercialisée, sa carte. On va vous mettre les infos sur francebleu.fr. Elle est magnifique. Il l'a entièrement terminée. Il y a eu des petits accidents, mais compensés par du blanco.
Oh, il avait
non, ne le redites pas. pas.
Montpellier et Toulouse.
Oh, vous êtes pas sympa. C'est parce qu'il était fatigué et ça l'a fait rire lui-même. Ensuite, Denis, on a dégusté du vin en montgolfière. Enfin, pas nous, mais on nous a dit que c'était différent.
À 2000 mètres d'altitude, le vin est très bon, mais différent depuis la montgolfière. Vous avez posé des questions très intéressantes sur le vin.
Je vous remercie. C'est parce que c'est vendredi que vous êtes sympa.
Pas du tout.
Et puis, on a terminé avec le réveillon en Seine-et-Marne. Ça commence ce soir un spectacle immersif.
À Champs-sur-Marne, le grand réveillon, comme à la fin du 19e, avec les messieurs en haute forme et les dames avec les belles crinolines, on dit
oui,
ça
vous,
comme
vous,
ça.
Vous pouvez le dire.
En fait, c'est du théâtre immersif. Je fais le malin parce que je connais le théâtre immersif grâce à vous, Frédéric.
Ah, décidément. Bon, très bien, on revient lundi si tout va bien, Denis.
Lundi, nous serons le 25 novembre. Nous serons à un mois, jour pour jour, de Noël. Et donc, on va vous raconter lundi l'histoire du calendrier de l'Avent.
On commence les festivités dès lundi.
Oui, très bien. C'est parti pour la Sainte-Catherine.
Reposez-vous d'ici là et bon week-end.